Le deuxième forum des clubs thérapeutiques sur le thème de l'engagement, organisé par la clinique psychiatrique de Sommerie, s'est déroulé le 20 mai dans une des salles du château de Chambord où plus de 20 clubs venus de toute la France ont répondu présents à cet événement. La défense d'un soin de qualité, d'une psychiatrie fondée sur le respect et l'accueil de l'autre dans sa différence sera revendiquée par les soignants et patients tout au long de cette journée. Était présent Radio Codifata France pour une émission en direct, radio implantée depuis 20 ans dans un hôpital psychiatrique de Buenos Aires et Studio Zef, votre radio locale blésoise. Mais tout un tas de questions doivent se dessiner dans vos esprits curieux sur des concepts flous tels que la psychiatrie institutionnelle, les clubs thérapeutiques ou encore les groupements hospitaliers de territoire. Les participants de cette journée vous donneront quelques réponses au sujet d'une question de société que peu de gens, à commencer par les pouvoirs publics, n'ont le courage de regarder en face. Il en résulte une situation inquiétante d'incompréhension entre une pratique professionnelle humaniste et un discours comptable de réduction des coûts. Un dernier mot sur l'incendie qui eut lieu à la clinique psychiatrique de la Borde peu avant cette journée où Jean-François a perdu la vie. Quelques personnes de la clinique, malgré ce drame, ont répondu présentes à cette journée. Alors place à la parole de patients et de soignants dans un joyeux désordre radiophonique.
Louis Stomé, et je suis originaire de Tours et j'ai fait le choix de venir dans Loir-et-Cher pour travailler dans la psychothérapie institutionnelle, qui est quelque chose de vraiment très particulier, qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'endroits. Et dans le Loir-et-Cher, on a la chance qu'il y ait 3 cliniques de psychothérapie institutionnelle. L'un des outils importants de la psychothérapie institutionnelle, il y a cette notion de club. C'est pour la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui. Alors l'historique du club, qu'est-ce que c'est qu'un club ? Alors c'est important de rajouter la notion de thérapeutique. Les premiers clubs sont apparus au milieu du siècle précédent, pendant la Seconde Guerre mondiale, un monsieur qui s'appelait Toscaïès, qui était catalan et qui était républicain. Il est venu en France et donc c'est à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Les hôpitaux n'étaient pas la priorité à l'époque, il y a eu beaucoup de morts dans les hôpitaux. Et donc ce monsieur, François Toscaïès, a eu l'idée que toutes les personnes au sein de l'hôpital de Saint-Alban puissent participer à la vie quotidienne. Donc c'est parti de là, d'une nécessité. Et progressivement, ils se sont rendus compte que donner des tâches aux personnes dans la vie quotidienne, ça pouvait être thérapeutique. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils étaient responsables. On leur donnait la possibilité notamment de gérer une caisse d'argent ou de conduire des voitures, des voitures avec des soignants ou des soignants à l'intérieur. Il y a aussi des liens, tout simplement. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie ordinaire. Sauf que le club, du coup, c'est... Dans la vie ordinaire, il y a la République avec ses statuts qui sont la Constitution française et au sein du club thérapeutique, les statuts, ce seraient les statuts du club, les statuts associatifs. Voilà, l'idée en fait, c'est une micro-société comme un laboratoire mais protégé où tout peut être parlé, où il y a beaucoup de liens qui se créent, où il y a beaucoup d'interactions par des rencontres. Et c'est une circulation des personnes, un dispositif comme ça où tout peut être reparlé. Alors nous à Sommerie, on est une clinique, on est une association loi 901. Mais alors après la notion de club, ici par exemple, aujourd'hui il y a 30 clubs, on n'est pas tous constitués au niveau, on n'est pas tous des associations. De nombreuses le sont, on fait le choix, mais après d'autres ont fait d'autres choix. Si on peut dire qu'il y aurait un invariant à tous les clubs, c'est un truc qui paraît tout à fait normal, c'est de reconnaître l'autre comme son identique, comme son semblable citoyen, et que l'on soit noir, qu'on ait une religion différente, qu'on soit fou ou pas fou. Quand j'utilise le terme fou, c'est pas péjoratif, hein. Mais voilà, on a tous le droit à la même parole, et au sein du club on a tous le droit à la même parole.
C'est-à-dire, si je vous comprends bien, que l'humain est vraiment replacé au centre de la question du soin et vice-versa, quelque chose comme ça ?
Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est le respect de l'être humain. On appelle ça la psychothérapie institutionnelle. On peut appeler ça de la psychiatrie humaniste, mais au premier sens du terme, respecter l'autre. Quand on voit dans l'histoire de la folie, il y a beaucoup de gens qui ont décrit. Notamment, je vous conseille le livre de Patrick Coupchou, Un essai sur l'humanité de la folie. Et il retrace très bien cette histoire de... En fait, c'est une histoire de représentation à l'origine. Et en fait, tout découle de ça. Si on d'abord, il y a très longtemps, se représentait le fou comme quelqu'un qui était pris par des sorciers ou des trucs comme ça, où ça avait un sens religieux. Et au fur et à mesure, avec la Renaissance et puis avec des mouvements humanistes, on a considéré le fou comme quelqu'un comme nous. Et qui, sans sa reconnaissance... Il peut pas y avoir de reconnaissance de l'être humain. Il y a Jean-Luc Godard qui exprime très bien ça. Il dit que c'est la marge qui tient la page. C'est-à-dire que sans l'existence même de la folie, on peut pas reconnaître l'humanité. Nous, dans l'ORHR, donc, on est 3 clubs et on avait des liens, mais qui étaient pas formalisés. Et en 2010, on a créé un interclub avec une instance qui se réunit tous les 2 mois, à peu près, à savoir la Borde, la Chênée, Sommerie. Puis là, il y a pas très longtemps, Château Renaud. Et puis voilà, on a créé un... L'idée, c'était de se fédérer. Et plus on est de personnes, plus on résiste mieux, plus on a d'idées. Et donc, on a commencé à se réunir tout doucement, parce que c'est des choses qui mettent très longtemps. Ensuite, on a découvert un écrit de André Buzaret et de Pierre de Lyon, qui sont 2 grands psychiatres qui défendent la peur de danger, qui sont 5 clubs et qui racontent... la possibilité d'existence, mais avec, en plus, eux, ils ont un tissu associatif. Ils appellent ça le bureau interclub. On a pris contact avec eux, ça a mis assez longtemps, c'était assez folklorique, c'était assez chouette, parce qu'on a décidé d'écrire à l'ancienne, à la main, donc la réponse est arrivée assez tard. Et en novembre d'il y a 3 ans, nous avons été invités à leur grande assemblée générale. Donc on était les 3 clubs, on les a rencontrés. Ensuite, l'année d'après, ont été invités aussi les clubs de Landerneau dans le Finistère et de Reims. Là, on s'est parlé, puis on a vu qu'on partageait exactement les mêmes valeurs. On avait des fonctionnements différents, associatifs, pas associatifs. Et puis nous-mêmes à Sommerie, on est jumelés à une structure au Chili qui ne s'appelle pas club, mais qui défend une psychiatrie humaniste. C'est pas forcément le terme psychothérapie institutionnelle, mais c'est de la psychiatrie humaniste. Et voilà, on s'est dit que... Bah que quel que soit l'endroit, il y avait un truc qui nous rassemblait. Et Reims, l'an dernier, en 2015, a accéléré le processus que ce petit groupe soutient, de se réunir et d'organiser un forum qui a réuni 180 personnes, à peu près 12 clubs. Puis on s'est dit, on va peut-être poursuivre avec le deuxième forum des clubs. Et donc on a travaillé pendant 1 an. Juste un petit dernier mot. Maintenant, l'idée, c'est qu'on y en ait un troisième de poursuivre. Et on a une bonne nouvelle. C'est l'heure du déjeuner. Il y a déjà 2 clubs de la région parisienne. L'élan retrouvé et l'association Etou de Asnières qui vont organiser un troisième forum l'année prochaine. Et puis, il y a aussi l'idée d'une fédération qui peut-être va se construire. Et pourquoi pas, un jour, si on continue à rêver, comme il y a 6 ans, un forum à Buenos Aires ou à Santiago.
Alors, moi, c'est Laura. Je suis adhérente du club et j'ai longtemps été une membre du bureau, donc dans l'organisation, en fait. Qu'est-ce que le club ? Alors, en psychiatrie, c'est apporter un peu plus d'humanité aux soins. Donc, en fait, l'air de rien, on va soigner les gens par un peu plus d'humanité, un peu plus de chaleur humaine. Le club va remettre le patient dans une citoyenneté, parce que du coup, on sera tous d'égal à égal, on sera tous adhérents au club et on sera tous à l'initiative de quelque chose dans son organisation, dans le quotidien de la structure.
Il y a quelqu'un qui disait au cours des interventions de chaque club, il y a quelqu'un qui a dit le club thérapeutique, c'est le poumon de l'institution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Complètement. En fait, c'est ce qui rend la structure autre chose qu'un hôpital. Ça rend un lieu de vie, un lieu qui bouge, où il y a une liberté de circulation, où il y a une liberté de parole. Et c'est aussi du coup le moteur d'initiatives, d'actions quotidiennes. Ça peut être des sorties, des activités, mais tout simplement le fait d'échanger et d'être présent. Et ça, c'est très soignant. Alors, l'engagement, c'est un peu un prétexte, en fait. Le thème est un prétexte à la rencontre. C'est-à-dire que c'est pour nous amener à parler de notre mode de fonctionnement. Parce que c'est ça qu'on a en commun, c'est de s'engager. Le fait de choisir une voie un peu institutionnelle, donc de faire un club, c'est déjà un engagement politique et un engagement humain. Et pour qu'un club subsiste, il faut qu'on s'engage à l'intérieur de lui, qu'on s'engage auprès des personnes qui nous entourent. Donc, c'est quelque chose qu'on a en commun. Voilà le pourquoi du thème.
Donc moi, je vais commencer par vous parler un petit peu du club de Sommerie. Donc Chaque club est singulier en fonction de son histoire, de son lieu et du moment. Donc voici un aperçu de l'histoire d'une autre. Donc Jean Houry a travaillé à Sommery entre 1949 et 1953, et il en est parti mécontent de n'avoir pu transmettre l'esprit de Saint-Alban. Mais son passage a laissé une empreinte et sa mémoire a marqué le lieu. En 1977, le vent de la psychothérapie institutionnelle recommence timidement à souffler sur Sommery et le club thérapeutique pose ses premières pierres. Donc, chez nous, le club est une association loi 1901. Il est reconnu d'intérêt général et le conseil d'administration est composé paritairement de 7 soignants et de 7 soignés, élus annuellement par tous nos membres.
Donc nous accueillons le collectif Arto qui a eu l'excellente idée l'an dernier de créer ce premier forum qui nous a donné l'idée de poursuivre. Et donc voilà, c'est la remise de relais. Donc je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter. Bienvenue.
Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être invités ici dans le cadre du château de Chambord, cadre magnifique pour ce deuxième forum interclub. Mesdames et messieurs, clubbeurs et clubbeuses, bonjour. Nous sommes heureux d'être là et merci pour votre accueil. Merci de nous recevoir dans votre pas si modeste demeure. L'an passé, à Reims, lorsque nous avions organisé le premier forum, il y avait 15 clubs et 160 personnes. Nous étions très loin d'imaginer nous retrouver un an après, ici à Chambord, avec, je crois, 31 clubs, c'est ça ? Et nous sommes donc 286 personnes, toutes plus motivées les unes que les autres. Voilà, je vous ai fait une courte présentation et je vais donner la parole à Marilyn.
Bonjour. L'état d'urgence d'Arto nous pousse certainement à nous retrouver pour passer et défendre nos idées, nos droits et nos valeurs à travers la pratique de l'expérience des clubs patients, soignants réunis.
C'est dans les moments de difficultés sociales et de résistance que les clubs sont nés et prennent encore aujourd'hui tout leur sens. La psychothérapie institutionnelle, c'est le carrefour entre la culture, les sciences humaines, la psychanalyse, le politique et la philosophie.
L'engagement, c'est soigner, prendre soin de l'objet commun. Notre engagement, c'est aussi notre croyance dans les valeurs humaines et citoyennes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, à Reims, luttons contre la mise en place des GHT, groupements hospitaliers de territoire, qui mettent en péril le secteur et les clubs au profit de l'économiquement rentable noyé dans l'hôpital général.
Nous espérions en septembre 2015 que les clubs thérapeutiques soient inscrits dans la nouvelle loi santé. Malheureusement, l'amendement n'a pas été adopté. Par contre, y apparaît la protocolisation des contentions, malgré la précision de leur caractère exceptionnel. Cela est intolérable, car cela ne met pas en avant les pratiques humanistes. Les patients, on ne les attache pas, on s'y attache. Il est regrettable que les bonnes pratiques préconisées par l'HAS aient totalement abandonné le pan relationnel qui est la base du soin. Le club, c'est le soutien de la vie quotidienne.
Bonjour à tous, je m'appelle Gisèle, ça fait un an à peu près que je suis fait partie du groupe thérapeutique d'Adville. Donc je m'occupe de la cafétéria, Donc la cafétéria contient une ouverture de 9h à 12h avec un référent. Ça permet en fait les patients d'être moins isolés. Donc ils descendent, viennent à la cafétéria en faisant un sourire, un bonjour. Ça permet aussi les gens d'aller bien et nous aussi. Et ça nous permet aussi d'avoir des relationnels, aussi bien de l'extérieur et de l'extérieur. Et aussi, dans cette cafétéria, il y a une friperie. Donc tout le bénéfice, ça va à l'association. Et ça nous permet aussi de faire des voyages, comme là où on a été dans un gîte pendant 4 jours. Donc on fait des ventes de gâteaux. Et aussi, il y a un trésorier, une trésorière.
Bonjour, bienvenue. Donc on va vous présenter le travail de l'atelier SLAM du club de Sommeries. C'est un travail qui est en cours depuis à peu près 4 mois. Je vais vous expliquer auparavant ce qu'est le SLAM très rapidement. Donc le SLAM, ça a été inventé en 84 à Chicago. C'est en fait une compétition de poésie, c'est une compétition de texte. Donc normalement, il y a un classement, il y a un jury. C'est une compétition bon enfant, hein. Le but, c'est de pouvoir jouer avec la poésie pour pouvoir en faire. Donc les gens écrivent leurs textes et le disent. Là, on va pas vous faire une scène, on va vous faire une démonstration de slam. On va garder une règle très importante d'une scène slam, c'est que quand il y a un slammeur qui passe, jusqu'au moment où il arrive ici, vous l'applaudissez pour l'encourager, et quand il a fini, vous l'applaudissez pour le remercier. Voilà. On va garder juste cette scène-là. Et donc, on va décliner. J'ai pas fini mon intro. On va décliner le thème de l'engagement. Donc c'est Loïc qui va nous parler du quotidien de l'engagement.
L'engagement de faire les poubelles, la petite boutique, ce sont des engagements. J'avais aidé Yann à faire la petite boutique pour le tabac. J'avais participé à la vie collective. C'est une question de savoir vivre. Ce que j'avais dit au club, ce sera dit à l'Assemblée générale.
Merci, bravo Loïc. Et maintenant, sur la thématique de l'engagement et du sport, je passe la parole à Lagacé.
J'ai écrit ce texte pour un hommage à un ami. Le sport, un engagement. Le sport est un engagement. Fixer les objectifs pour réussir, se battre jusqu'au bout. L'engagement fait partie du temps. Malgré la défaite, l'engagement est atteint. L'engagement se bat jusqu'au bout. Pour un club, une équipe, tous ensemble pour l'engagement. Pour la fierté des autres et l'esprit.
L'engagement, c'est liberté de changer, d'être présent, absent. Liberté de rêver d'un avenir meilleur. Ici, même sans foi, être en cœur et au cœur sans donner de la joie. Et liberté encore d'être vivant ou mort. Et rêver de rêver, oublier d'oublier, partageons, partager. Unis dans tous les soins, réunis par la vie. Les uns au bras des uns, création de génie. Moniteur ou patient, effacé ou patent. Dans ce lieu de tristesse, où sont ceux en détresse? Ceux que la vie blessa violemment et souvent, brisa et rebrisa. Et parfois en passant, aida avec respect. L'existence est péril, on écrit sur un fil le silence et la paix. Écrit engagement, notre capacité à dire les moments, responsabilité gravée à l'encre bleue sur la face des yeux.
Bon, maintenant je vais vous demander d'accueillir le fondateur de l'atelier SLAM de Sommeries, Maître Ève, sur les liens de l'engagement. Applaudissez-le.
Si je me lis sans me délier, je suis avec toi en restant moi. Je suis au monde lié par un fil ténu, tenu par les autres sur mon fil distendu. Je suis perdu, mais relié à vous parce que j'ai décidé de partager. Je suis bourru, mais en capacité d'être à vous sur la trace de mon respect. Je suis vermoulu, mais en ayant l'énergie de me diriger. Je suis battu, mais prêt à me bagarrer. Je suis aliéné, mais prêt à m'engager.
Quand j'entends le mot engagement, je botte en touche. J'ai envie de prendre la tangente, de ruer, de huer. Et pourtant, de tout mon être, ma langue fourche, fait mouche. Mon langage m'engage à enrager, à rager de ne pas m'en plus, mieux dedans, vraiment à l'intérieur, de tout ce qui compte, de l'en-soi, du désir dedans, du désert dehors, de remplir de nous, d'être fort, d'être là, malgré tout, malgré ça, contre tout, au plus près, si près, préparé à vous rencontrer, à vous recevoir. Pas peur, même pas peur, même que moi, semblable, sans semblant. C'est un hommage à un immense poète qui s'appelait Gerasim Luca et qui était roumain.
Bah, ça a commencé au Mans quand, parce que j'étais SDF avant, j'écrivais beaucoup, j'ai un lourd passif et j'avais besoin d'écrire pour exprimer ma souffrance intérieure. Et puis bah, étant donné que j'étais fan de Baudelaire, Verlaine et tout, que je dis dans mon texte, bah, c'était aussi un petit peu une dédicace pour eux, quoi. Mais c'est étant donné que j'aimais bien le français et puis que je voulais partager ce que je ressentais parce que je savais que d'autres personnes le ressentaient, je pense, pareil que moi. Voilà, je voulais le faire en musique, quoi.
Et tu continues toujours à écrire des textes? T'écris tous les jours?
Tous les jours, presque, ouais. Mon dernier texte qui est en cours, là, c'est pour Océane, que j'ai rendu un hommage tout à l'heure, et pour qui je pense très fort à elle, même si elle ne me connaît pas, et puis que je l'ai connue que via ses dernières vidéos.
Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à cette journée? Comment tu te sens?
Tout d'abord, j'ai passé un très bon moment. J'ai pu rencontrer des gens d'autres cliniques et tout, et partager ma passion pour le slam. Et en fait, c'est Louis, un jour, parce que je faisais du slam en atelier avec le slameur Jacques Temerim, qui était stagiaire à la clinique de Sommery. Louis a trouvé que j'avais une bonne écriture. Et il m'a proposé de participer à cette journée pour, on va dire, entre guillemets, représenter la clinique, ainsi qu'avec Amaryllis, Loïc et tout.
Et ça fait longtemps que t'es à Sommery?
Ça fait 2-3 ans, ouais.
T'as des projets par rapport à la musique? Est-ce que t'as des pistes? Est-ce que tu veux enregistrer un petit truc?
Pour le moment, j'ai rien de précis. Je partage les compositions, c'est pas moi qui les fais, hein. Je préfère le dire tout de suite. C'est des chansons que je trouve sur YouTube. Il y a des, quand je partage mes textes sur la musique, quand j'interprète, en fait, il y aura par moments, peut-être, oui, des moments où j'oublierai de mettre le lien de l'instrumental. C'est pas du plagiat, enfin, c'est mes textes sur la musique d'un autre artiste, en fait, aussi.
Bonjour, donc moi c'est Fred, c'est Humapsy, Humapsy. Humapsy, c'est une association fondée par des patients, fin 2011, suite au discours de l'ancien président de la République dans un hôpital psychiatrique qui a tenu des propos qui nous ont vraiment à la fois révoltés mais surtout fait très peur, la façon dont il considérait qu'on devait être traité, à savoir enfermer-les et jeter la clé, ça nous a révoltés. Parce qu'il se trouve que nous sommes pour la plupart suivis à Reims dans un CMP où il y a donc cette pratique de la psychothérapie institutionnelle qui pour beaucoup d'entre nous a réellement été une bouée dans le sens où c'est pas simplement une crise, passage à l'hôpital et à nouveau l'abandon. Ce qui se passe là-bas, c'est différent. C'est qu'il y a un réel accompagnement à la sortie de l'hôpital qui débouche sur l'appartement thérapeutique, l'appartement protégé et le retour au commun. Donc c'est la démonstration, dans les faits, qu'il y a moyen de traiter, comme ils disent, les patients de façon humaine, en respectant à la fois leur rythme et puis leur désir surtout, quoi. L'association, on a une réunion mensuelle, une fois par mois, où on décide de ce qu'on va faire dans le mois qui vient, à savoir répondre à des sollicitations, parce qu'il se trouve que depuis 2011, on On est pas mal contacté, notamment par des associations d'étudiants ou même des professionnels qui dispensent des cours dans des universités ou dans des IRTS et qui souhaitent inclure dans leur programme cette notion de psychothérapie institutionnelle qui, en général, n'est plus trop évoquée au sein des universités et des lieux d'enseignement. Maintenant, on leur parle plus des techniques comportementales, de la psychoéducation, du rétablissement. Mais la singularité du patient, c'est quelque chose qui est un peu mis de côté. Ce qui est préconisé, c'est plutôt des thérapies de groupe avec une méthode qui serait soi-disant globale et qui irait à tout le monde. Sauf que ce qu'on constate, c'est que avec cette méthode, il y a quand même beaucoup de gens qui se retrouvent à l'écart parce qu'ils sont pas en mesure à ce moment-là d'adhérer à ce protocole de soins et ils se retrouvent pour la plupart abandonnés. Et l'abandon, ça veut dire quoi? Ça veut dire retour à la rue, voire en prison dans les cas les plus extrêmes, quoi, où la maladie et la mort, quoi. Par exemple, la semaine dernière, on était invité dans un IRTS à Montpellier. C'est un module qui est proposé aux étudiants. Là, ils étaient un peu moins d'une trentaine. Et on vient leur raconter la façon dont on est traité, dont on est suivi, la prise en charge dont on bénéficie. Et surtout, on témoigne de ce que ça nous apporte à nous. Et le témoignage d'un acte vécu est toujours plus fort qu'une grande théorie. À titre d'exemple, la semaine dernière, quand on était à Montpellier, à la fin de l'intervention, le professeur est venu nous dire qu'il était vraiment très content parce que les étudiants, en nous entendant, ont une autre perception à la fois de la folie, de la psychiatrie et du patient suivi en psychiatrie, quoi. Il nous racontait aussi qu'il y avait un effet fenêtre ouverte à partir du moment où les propos ont été entendus et qu'il y a une réflexion qui s'amorce, ça reste ouvert. Et donc les perspectives sont beaucoup plus larges après, quoi. Ouais.
Et en tant que représentant donc de cette association, votre participation à la journée d'aujourd'hui, elle est nécessaire. Comment vous la voyez? Comment vous vivez cette journée d'ailleurs?
Moi, je suis très content parce que là, on est près de 300 personnes qui font vivre les clubs thérapeutiques. Le club thérapeutique, c'est vraiment ce qui, pour la plupart d'entre nous à Reims, nous a remis en selle. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, parce que ça permet une circulation pendant l'hospitalisation, en dehors de l'hôpital. Parce que le club à Reims, par exemple, il est en dehors de l'hôpital. Ce qui fait que des gens qui sont hospitalisés ou des gens qui vont mieux et qui sont au centre de jour peuvent se retrouver dans un lieu tiers. Échanger ce qui permet aux gens qui sont hospitalisés d'avoir un peu d'espoir, se dire que même une fois dehors ils seront pas à nouveau seuls. Il y aura cet effet de club et de groupe qui est vraiment étayant, quoi.
Merci beaucoup Fred, je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.
À vous aussi, parce que je connais aussi les menaces qui pèsent sur les radios associatives et je vous souhaite bon vent.
Merci beaucoup.
Radio Z.
Je suis en compagnie dans la cour du magnifique château de Chambord de Christelle et de Sébastien qui vont nous expliquer un petit peu leur parcours, où ils travaillent, et j'ai cru comprendre qu'ils étaient à l'initiative du premier forum des clubs thérapeutiques. Christelle ?
Alors bonjour Christelle, je suis présidente de l'association Le Grillon et puis par ailleurs infirmière au centre Antonin Artaud de Reims. Alors le premier forum finalement c'était quelque part un peu le hasard. On organise depuis 2011 les semaines de la folie ordinaire à Reims dans le cadre des semaines de la santé mentale où on essaie quand même de... montrer toute la créativité du collectif du Centre Artaud et des clubs et du GEM.
Le GEM, voilà. C'est quoi le GEM? Le
groupe d'entraide mutuelle, la locomotive, dont Sébastien est président. Et donc en 2015, on a invité plusieurs clubs avec qui on était en réseau à venir nous voir à la semaine de la folie ordinaire, parce qu'on a plusieurs événements, une exposition, une soirée, des bars... et puis là, en fait, plusieurs clubs répondent à la demande, finalement, en disant « nous, on veut bien venir ». Ils venaient quand même de loin aussi, pour certains. Et on s'est dit « mais comment on va accueillir tout ce monde-là ? On peut pas simplement leur dire « venez voir la soirée » ou voilà, et puis vous repartez, et puis au revoir, quoi ». Du coup, on s'est dit qu'au départ, c'était, je crois, accueillir autour d'un petit déjeuner au Centre Artaud. Et puis finalement, comme il y avait beaucoup plus de monde... On s'est dit, ben, pourquoi pas faire une journée de rencontre des clubs où on pourrait discuter ensemble du quotidien de nos clubs, se présenter, voilà.
Oui, alors moi c'est Sébastien, je suis président de GM La Locomotive et secrétaire du club Le Grillon. En fait oui, on a ressenti une urgence dans le fait de regrouper les clubs qui faisaient l'usage de la psychothérapie institutionnelle et aussi tous ceux qui pensaient que l'orientation actuelle de la santé, notamment en psychiatrie, n'était pas bonne. On s'est dit qu'on allait faire un archipel de résistance en fait entre plusieurs lieux qui voulaient continuer à utiliser les mêmes moyens de soins et ne pas se plier aux directives de l'HAS et de l'ARS.
Alors HAS, ARS,
c'est la Haute Autorité de Santé et les agences régionales de santé.
Très bien, donc c'est des organismes décideurs pour la politique de santé, c'est ça?
Oui, c'est bien ça. Les GHT, ce sont les groupements hospitaliers. Oui, les groupements hospitaliers de territoire. Alors à la base, en psychiatrie, on travaille par secteur, des secteurs de 75 000 personnes, ce qui fait que les grandes villes en ont plusieurs, hein. Paris, il y en a énormément. À Reims, je crois qu'il y a 4 ou 5 secteurs. Et en fait, ce qu'ils veulent faire avec les groupements hospitaliers de territoire, c'est regrouper tous les secteurs en des grands pôles de 200 000 personnes et puis de marier la médecine générale avec la médecine psychiatrique. Donc on est assez opposé à ce système parce qu'on se dit on va devenir anonyme. Peut-être que la psychothérapie institutionnelle risque de disparaître parce qu'on va vouloir probablement tout uniformiser, hein, pour faire des économies évidemment. Donc on se mobilise contre ça actuellement.
Vous pensez que cette initiative, si je puis dire, est une question uniquement d'argent au détriment de l'humain ?
Oui, c'est une question d'argent au détriment de l'humain, exactement. L'État veut faire des économies et du coup veut une uniformisation des protocoles, des modèles de soins. Il veut appliquer les TCC, les théories cognitives comportementalistes, la méthode ABA pour les personnes autistes. Et il veut aussi, c'est plus récent, interdiction du packing. Le packing, c'est un moyen, avec un linge humide, d'entourer une personne qui est en souffrance, qui est en délire, et de la contenir pour qu'elle se calme, en fait. Et cette pratique, malheureusement, est interdite depuis maintenant quelques jours, je crois. Et je pense que c'est une grosse erreur. Par contre, on autorise la sismothérapie et les contentions. Alors la sismothérapie, bon d'accord, ça peut aider, hein, les électrochocs. Moi j'en ai subi, donc... On est tous, on a fini par former un collectif à Artaud qui est contre tout cette forme d'abrasion de la santé, d'uniformisation de la santé et aussi de la novlangue qu'on veut nous imposer.
Et c'est vrai que vous êtes un secteur aussi qui n'est pas épargné effectivement par les coupes budgétaires.
Psychiatrique, hein, de toute façon, donc voilà, on fonctionne comme un hôpital. Voilà. Moi ce que je voulais dire par rapport à UMAPSI, l'association de patients, elle nous a beaucoup aidés aussi, nous, soignants. C'est-à-dire qu'ils ont créé un réseau avant même que nous, on le fasse. On avait un petit réseau, mais on était plutôt fermés sur nous-mêmes. Et en fait, l'association, elle est partie à la rencontre de tas de gens, de tas de groupements. Enfin, voilà, ils ont été très ouverts à rencontrer des associations, des groupes d'entraide mutuelle, d'autres associations d'usagers.
Est-ce que vous avez la sensation, avec justement ce système de réseau, que ça ouvert le débat, que ça a créé des dynamiques nouvelles dans les autres établissements, auprès de vos collègues?
Ben, c'est-à-dire que la parole des membres du MAPSI, elle est super importante. C'est-à-dire que ce sont des patients qui vont même dans les lieux de formation, dans les écoles d'infirmières, dans les écoles, les IRTS, hein, pour les éducateurs, dans les facs aussi. Et c'est une parole vraie, une parole d'expérience, voilà. Et ils viennent aussi questionner les soignants sur, par exemple, un exemple tout simple, mais pourquoi vous avez besoin de mettre une blouse ?
Est-ce que le forum de l'année dernière qui s'est déroulé donc à Reims avait un thème, comme aujourd'hui c'est l'engagement ? Est-ce que c'était thématique ?
Pas du tout. C'était à la base se rencontrer, se présenter, voilà. C'était aussi ça le but. Et puis, il y a aussi des petits groupes qui sont venus qui n'avaient pas de club, qui posaient la question de comment on fait un club. Alors, c'est pas évident. Voilà, et c'était un partage d'expériences très riche, quoi. Mais il n'y avait pas de thème, non. C'était, voilà, c'était le premier. On a organisé tout vraiment très rapidement. On a mangé des pizzas au Centre Artaud sur les deux étages à 160. C'était... Donc là, cette année, c'est royal, quoi.
C'est le cas de le dire.
Voilà. Ouais.
Merci François Ier.
Ouais, merci François
Ier. Péter un câble, ça arrive à tous et toutes. Parce que je fais d'autres activités dans deux autres associations, que je peux les nommer d'ailleurs, parce qu'avec, ça fait 3-4 mois, deux autres associations que je peux les nommer quand même. Cardan, c'est pour des gens en difficulté de lecture et d'écriture. Ça fait 17 ans que j'y suis bénévole dans cet asso. Et l'asso Le Rosier, j'ai fait brancardier bénévole l'année dernière à Lourdes. Je voulais vous dire que ce séjour thérapeutique... Ça va mieux m'organiser chez moi parce que je ne suis pas trop courageux à repasser. Je le dis. Parce que j'ai beaucoup de chance d'être à l'aise sur scène. Et du coup, dès mardi matin, je vais m'y mettre. C'est positif.
La Colifata Santé Mentale et Communication est une ONG à but non lucratif qui développe des activités dans le domaine de la recherche et offre des services de santé. Elle est communément connue sous le nom de LT22 Radio La Colifata. C'est la première radio au monde à émettre depuis un hôpital psychiatrique. Rencontre avec Alfredo, qui était aux commandes, en direct du forum, pour les auditeurs d'Amérique du Sud qui ont été nombreux à se manifester.
La comunidad de Peña Lolén, bueno, on dit, buenos días, estamos muy contentos que nos estén escuchando desde Chile. Nous sommes très contents que vous êtes là. Et ils sont aussi très contents de nous entendre. Voilà. Et aussi, oui, un applaudissement pour les Chiliens. Chi-chi-chi, le-le-le, viva Chile. Genciana de Coach, elle écrit en français, depuis l'Argentine, bonne chance toujours. Et Almudena Calvo Bosch nous écrit de Barcelone, elle écrit en espagnol, dit que disfruten el encuentro y que salgan muy buenas ideas del foro. Et j'espère que de nouvelles idées vont sortir. C'est ça qui dit Almudena Calvo Bosch. Natacha Victoria Castaño, il nous écrit en français. Et dit, pour tous qui sont là, pour tous qui sont ici, je vous embrasse avec toute ma lumière. Natacha Victoria Castaño. Bonjour, je m'appelle Alfredo Oliveira, je suis psychologue. Et on a commencé il y a 25 années déjà, une expérience en Argentine qui s'appelle Radio La Colifata. La Colifata a été la première radio au monde qui émet depuis un hôpital psychiatrique. Et les gens qui parlent, c'est les gens qui sont en train de qui traversent l'expérience de l'hospitalisation. Au début, la Colifata en est comme la radio sans antenne. Ça veut dire on se réunit dans un espace ouvert de l'institution pour enregistrer et après petits extraits de notre débat, de notre espace de réflexion, ils ont été diffusés. Dans une vingtaine FM et AM de l'Argentine. Ça veut dire que la Colifata existe ou a existé à partir du geste solidaire d'inclusion des autres. Et après, ça nous a permis de créer un lien avec la communauté, avec les auditeurs. Et grâce à ça, on a reçu le premier don qui était notre première antenne. Et la Colifata a devenu une vraie radio. Aujourd'hui, 25 années après, la Colifata émet le samedi en direct depuis l'hôpital psychiatrique dans un espace ouvert. après, pendant la semaine, émettre en direct aussi, mais dans notre studio dehors de l'hôpital. C'est un espace d'accueil pour tous les gens qui sont sortis déjà de l'hôpital et aussi c'est un espace de confluence avec les acteurs de la communauté qui vont faire aussi la radio. Finalement, il y a un troisième espace qu'on appelle la radio nomade, la radio itinérant, la radio éphémère. Bon, il y en a commencé avec cette modalité il y a plus de 20 ans, avec un petit équipe émetteur de 1 watt. Il y en a été dans différentes écoles. Par exemple, on a fait la radio de la récréation. Les patients de l'hôpital psychiatrique, ils sont sortis de l'hôpital et ils sont devenus profs, on va dire, de la radio. Ils ont appris ou enseigné aux enfants le métier de la radio. Quel objectif la radio Kolifata? On a créé la radio comme un outil qui permet d'aborder différentes situations cliniques. On travaille dans une clinique situationnelle, une clinique des groupes, et on accompagne certains parcours thérapeutiques. Mais pas uniquement ça. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, la radio, par définition, c'est producteur des liens. C'est s'adresse à l'autre. Et le plus important, la Kolifata, c'est le rôle qu'a pris notre auditeur. La présence de l'autre, c'est constitutif de l'expérience en soi-même. Aussi, la Kolifata a aidé à accompagner le parcours de sorties de l'hôpital. Et on a constitué une association sans fin lucratif qui donne différents services en santé mentale. Les buts au niveau très général, c'est on pense le média comme un outil au service de la production d'espace en santé mentale. La stratégie de travail a été de développer un projet, de développer la radio dans les milieux sociaux. Il faut sortir de tout le circuit ghettifiant. Et la radio Kolifata a permis aux gens de rencontrer des autres, majoritairement gens qui font pas partie de l'univers de la psychiatrie. Et ça nous a permis justement travailler au niveau de la santé mentale. À grosso modo, la Kolifata, c'est ça. Aujourd'hui, 25 années après, la Kolifata a devenu une vraie radio FM et émettre avec une puissance de 10 000 kilowatts. La moitié de la ville de Buenos Aires, il peut écouter la Kolifata en direct. Mais aussi, on continue avec l'ancienne méthodologie de produire petits moments radiophoniques pour donner aux autres radios. Parce que c'est ça vraiment qui permet un vrai échange avec l'autre social. Et ça, c'est les piliers de notre travail au niveau pour travailler la dimension de la déstigmatisation, déstigmatisation c'est correct, de la folie, de la souffrance psychique, et à la fois, grâce à qui on a développé des dispositifs ouverts de travail, et ça produit certains effets dans les parcours thérapeutiques de certains gens. Année 2016, nous sommes pour arriver à réaliser un projet nouveau. C'est la Kolifata qui émet de trois espaces différents, mais comme un outil d'inclusion sociale aussi au niveau économique. Nous sommes en train de signer un partenariat avec l'État de l'Argentine qui va permettre pendant un an donner un petit salaire à 25 participants de la Kolifata et 25 autres en situation de vulnérabilité sociale. Total 50 personnes qui vont toucher un petit salaire pour développer le projet radiophonique La Kolifata 24 sur 24. Et l'objectif, c'est, nous sommes en train d'imaginer, de penser les jours d'après, après l'année, comment nous pouvons développer petites unités productives qui permettent aux gens une vraie inclusion, même au niveau économique. Et moi, je travaille comme psychologue en Agnières. Avec une équipe de travail, on développe un projet, ça s'appelle la radio sans nom. Et c'est une belle expérience qui se rassemble un petit peu à la Kolifata, mais c'est ici en France. Et aussi, ici en France, moi je développe l'association La Colifata France. Parce qu'on a travaillé pendant des années dans le terrain de la formation. On a formé, pour l'exemple, ici à Paris, existe une expérience depuis 2008 ou 2009, ça s'appelle Radio Citron. C'est nous qui avons été convoqués pour donner le cours des formations et pour l'initier. Colifata France essaye de développer tous les côtés liés à la transmission de l'expérience, la conceptualisation, etc. Et aujourd'hui, la mission a été de mettre en direct le deuxième forum des interclubs thérapeutiques pour justement pour aider à continuer à créer des liens avec l'autre.
C'est un plaisir de voir toutes les nouvelles personnes, des personnes qu'on a rencontrées la dernière fois à Angers, voilà. Ça nous permet des expériences des autres, de nous les transmettre aussi. Voilà. Et ce que je trouve, c'est super, c'est qu'on est en communication avec l'Argentine. Ça, c'est bien. C'est hyper cool. Ça, j'adore. Voilà. J'ai adoré ce matin le petit jeune qui a chanté le slam. Alors là, franchement, hyper top. C'est clair. Et je dis, franchement, les gens... tous les gens qu'on sait qui sont comme nous, c'est arrivé, période de la vie, c'est pas notre faute, mais on est des gens comme les autres. Il faut qu'on continue à avancer, à faire les choses, etc. Et moi, j'encourage qu'on continue et cette chose de... ça y est, j'ai un trou, moi. Aide-moi, toi. Cette assemblée, en face, la belle équipe, voilà, le forum, en face, qui est fait, chaque groupe, c'est hyper important. Et je trouve ça hyper génial. Il faut que ça continue, encore et encore et encore et encore. Voilà.
Un grand merci aux participants de cette journée conviviale et instructive. On leur souhaite d'autres forums à venir.
Je suis concierge rue de Bussy. Dans mon immeuble, il n'y a que des penseurs. C'est moi que je suis leur égérie. Je fume la pipe et je mange des fleurs. Je suis décadente. Le matin, quand je fais mes escaliers avec mes pauvres jambes avarices, je pense à Sisyphe et son rocher qui retombait dans un précipice. Je suis décadente. Quand Ernest, il veut me faire ma fête, je lui dis à quoi bon, très amer. Il me répond pourquoi pas, c'est bête, j'ai épousé un gars primaire. Je suis décadente. Quand je me sens trop lasse, sur ma porte je colle un papier. Je mets la concierge et dans l'angoisse qu'il se débrouille pour le courrier. Je suis décadente. Mais le suicide quotidien, ce n'est vraiment pas une vie. Le désespoir, ça n'est pas sain. On s'en lasse et s'en l'édit d'être décadente. Sentir qu'on n'est rien ici-bas, cela conduit à tous les vices. Fumer de la marijuana, c'est mauvais pour mes rhumatismes. Je suis décadente. Le désespoir, j'en ai ma dose. Je vais prendre une place à Passy. Là au moins je serai quelque chose. Et puis j'aurai foi en la vie. Méritante. Je vais avoir un rôle et des devoirs. Je me peindrai plus les ongles en noir. Je mangerai un yaourt tous les soirs quand je serai psychiatre.